Les danseurs sont des capteurs de réel. Ils se saisissent d'une part du monde et nous le retraduisent dans leur corps et à travers leur danse. Ils ont développé des capacités insensées d'enregistrement et de stockage de mémoire gestuelle et imaginaire. Depuis toutes ces années où j'ai commencé à danser, je n'ai eu de cesse d'observer les danseurs, dont je fais partie, et de tenter de comprendre leurs mécanismes de perception, leurs stratégies d'approche, leurs incroyables capacités mimétiques. Mathilde Monnier, ce soir notre invitée, à l'occasion de son spectacle à Paris au Théâtre National de Chaillot intitulé « Record ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec quelqu'un qu'aime beaucoup. Nous aussi, ça tombe bien, Mathilde Monnier, il s'agit de Philippe Catherine.
Il pleut, le ciel est bleu, il y a du vent, mais rien n'y paraît, c'est un moment parfait. Je l'oublierai jamais. Je t'aime, c'est fou quand même. La plage est typique, mon romantique. Je l'oublierai jamais, c'est un moment parfait. Tam, 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 tam. Tum 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 tum. Ni souvenir, ni avenir. Un oiseau passe, chante mon Parnasse, poule un capolinaire. Bien sûr qu'il peut le faire. C'est un mirage, c'est un moment parfait, ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais.
Danser, c'est penser, Mathilde Monnier.
Pour moi, danser, c'est penser. Penser, c'est danser. J'aime bien l'idée de retourner aussi la phrase. Moi, je travaille beaucoup à partir d'idées. Alors, c'est ça mon moteur, en fait. C'est toujours comment est-ce que je peux donner forme, comment une idée peut trouver une forme dans un corps. Ça, c'est une façon de démarrer, notamment, de démarrer le travail. C'est-à-dire que j'ai une idée, et puis après, c'est ce passage-là. C'est comment le corps, d'un coup, va pouvoir trouver, correspondre à cette idée, alors qu'il va s'élargir, qu'il va grandir. Mais j'ai besoin d'idées, et j'ai toujours besoin de cet aller-retour entre le mental et le physique. En fait, je travaille tout comme ça dans le studio, j'écris sur un petit carnet, puis après je vais danser, puis après je lis un truc, puis après je revais danser. C'est toujours dans cet aller-retour entre les deux.
Vous dansez tous les jours?
Non, je danse pas tous les jours. Je pratique, je m'entraîne, mais je danse pas tous les jours. Parce que je crois que je m'ennuierais. J'aime bien que ce soit des moments un peu particuliers. Et puis parce que je danse pas chez moi, à la maison. J'ai besoin d'un lieu pour danser.
Comment ça a commencé, la passion de la danse?
Alors c'est difficile pour moi de répondre à cette question. Parce que j'ai des photos de moi, toute petite, à l'âge de 2 ans, habillée en danseuse. Bon, on habitait au Maroc, donc dans un bled. On n'allait pas au cinéma, il n'y avait pas la télé. Enfin, on n'avait rien. On avait très très peu de choses au niveau culture. Et donc, je ne sais pas d'où j'ai eu cette idée de m'habiller en danseuse.
Et puis, c'est peut-être votre maman à 2 ans.
Non, c'est pas ma mère. Non, c'est pas ma maman, pas du tout. Il y avait personne de la famille qui dansait. Non, je ne sais absolument pas d'où ça vient. On était vraiment assez isolés culturellement. Et puis après, tout ça s'est concrétisé beaucoup plus tard, à l'âge de 16 ans, en fait, quand on est revenu en France, où d'un coup, je me suis dit, mais oui, en fait, il y a des gens qui dansent, c'est quelque chose qui existe. Alors, j'étais physique quand même, hein, je faisais de la gymnastique un petit peu. Mais la danse, je sais pas d'où ça vient, c'est sans doute d'un livre, peut-être.
Quel livre?
Peut-être Martine à la danse, ce genre de choses. Voilà, je devais avoir ces espèces d'images assez enfantines. de la danseuse avec ses pointes, du chignon, enfin. Mais je ne sais pas d'où ça vient réellement.
En tout cas, vous avez décidé de choisir la danse, vous avez commencé à apprendre la danse, et puis vous êtes parti, comme bon nombre de chorégraphes et de danseurs et de danseuses aujourd'hui, à New York. Que s'est-il passé?
Alors à New York, c'était vraiment un tournant dans ma vie, parce que d'abord c'était une époque quand même assez dingue à New York, il faut dire. Voilà, c'était une époque, le début du hip-hop, c'était 84-85, donc en fait à New York avant le sida, à New York, enfin juste avant, à New York qui était encore complètement aventureux. Donc moi j'y suis venue pour prendre des cours avec Merce Cunningham, là j'avais une bourse. Et puis en fait, on s'ennuyait un petit peu, je dis « on » parce que j'étais avec un autre danseur qui s'appelait Jean-François Durour. Et on s'ennuyait un peu à prendre des cours, on était dans quelque chose d'un peu trop pédagogique, entre guillemets. Et puis à l'époque, Merce Cunningham ne pouvait pas engager de danseurs étrangers. Donc la porte s'est assez vite fermée côté Cunningham. Et donc on a décidé de travailler un peu dans la cuisine. On avait un grand appartement chez Charlie Atlas. Qui est donc le caméraman illustre de Merce Cunningham, et puis on s'entraînait dans la cuisine et on a commencé à faire un petit duo qu'on a présenté dans un loft qui était tout l'opposé absolument de ce qu'on voyait chez Merce. C'est-à-dire qu'on a, en fait, on s'est dit, bon, on va faire vraiment l'inverse. On va se mettre en kilt, on va faire des choses très lyriques, on va mettre une musique allemande. Voilà. Alors que le matin, on faisait des cours très carrés, en comptant avec des comptes comme ça. Et ça a donné lieu à ce premier duo qui nous a lancé tous les deux, Jean-François
et moi.
Et qui
vous a propulsé partout parce que vous avez été reconnu et même célèbre. Très jeune. Ensuite, il y a eu l'Afrique. Que s'est-il passé?
L'Afrique, c'est venu plus tard. Alors, c'est presque 10 ans plus tard, parce que l'Afrique, c'est en 92, 93. J'étais dans une sorte de panne artistique assez tôt. En fait, j'avais déjà fait quand même 3-4 pièces. Et puis, j'ai eu une espèce de trou. J'avais plus d'idées, plus d'envie, plus de désir, en fait. Beaucoup l'histoire du désir. Et donc je suis partie au Burkina au Burkina Faso pour voir des danses. Donc j'ai visité le pays, j'y suis allée plusieurs fois et je suis allée voir plein de danses traditionnelles dans plein de villages différentes. Il se trouve que le Burkina Faso, c'est un des pays où il y a sur un continent relativement, enfin sur un pays avec une étendue relativement petite, il y a plus de 100 ethnies avec des danses différentes. Donc en fait, j'ai vu énormément de choses et j'ai rencontré Salia Sanon et Sédou Borro, qui ont été deux artistes qui m'ont accompagnée après.
On a l'impression que la panne, ça ne vous fait pas très peur. D'ailleurs, je me souviens, il y a quelques années, au théâtre de la Cité Internationale à Paris, avoir vu un spectacle de vous, assez ancien, qui était reproduit sur le plateau, et qui parlait justement de ce moment où des artistes comme vous, chorégraphes et danseuses, ben, il n'y a plus d'idées qui viennent, et comment faire quelque chose pour que la machine fonctionne et continue.
Oui, je crois que c'est quelque chose qui arrive à tous les artistes, il faut juste savoir le reconnaître, et moi ça m'arrive assez souvent, ça m'est encore arrivé récemment, quand j'ai décidé aussi de venir à la direction du CND, du Centre National de la Danse. C'est-à-dire, c'était aussi un moment où je ne savais plus où j'en étais et j'avais envie de faire autre chose. Et donc, j'ai candidaté pour le poste à la direction, mais c'était aussi... Où j'avais par ailleurs là beaucoup d'idées, mais c'était aussi suite à une espèce de... J'avais plus de désir, en fait. J'avais plus de... Je ne savais plus où j'allais. Et c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière, et souvent ça a été en même temps des moments très importants parce que c'est des tournants. Je prends un autre chemin, je découvre autre chose, mais c'est pas des moments très agréables non plus.
Le vide, c'est bien.
Le vide, c'est bien. Je dois, c'est un peu un objectif d'arriver à vider les choses. C'est pas facile en fait. C'est souvent plus simple de remplir, et c'est beaucoup plus difficile de vider. Et c'est plutôt ça ce que j'ai fait sur Record. C'est-à-dire, j'ai l'impression aussi que la crise sanitaire, la crise du Covid, a créé du vide. Parce que d'abord, on n'avait pas d'activité. Moi, comme beaucoup d'autres artistes, je me suis retrouvée... Enfin, le premier confinement, c'est arrivé le jour où je devais partir en tournée. Et on avait 3 mois de tournée, donc je me suis retrouvée vraiment dans cet état de vide total, enfermée dans ma chambre, comme tout le monde... Et oui, j'ai expérimenté le vide.
Que s'est-il passé à l'intérieur de vous, vous qui travaillez depuis très longtemps justement sur la pensée de la danse, sur la philosophie de la danse, sur la fragilité du corps?
Il s'est passé que la nuit même, en me réveillant, j'ai eu un désir vraiment très clair de faire des petites vignettes de petites sur Instagram pour pouvoir être quand même en lien avec d'autres danseurs, des amateurs, du public, et c'est quelque chose que j'ai fait tous les jours. J'ai fait des espèces de petits tutorats sur des à la fois yoga, mes cours de danse, certains mouvements assez que je pratique régulièrement, que j'avais envie de partager. Et ça, c'est quelque chose qui m'a tenue en fait pendant 2 mois. Donc tous les jours, c'était assez astreignant parce qu'il faut être très clair. Et donc la nuit, je travaillais pour me dire qu'est-ce que je vais proposer le lendemain. Et en fait, j'ai trouvé beaucoup de choses en faisant ça. J'ai inventé pas mal de choses. Et puis après, je suis allée dans mon studio parce qu'à un moment, j'ai eu accès au studio où je travaille. Et là, j'ai commencé à travailler sur Records.
Alors, Records, on va pas mentir aux auditrices et aux auditeurs. Le spectacle a été interrompu à cause du Covid. Personnellement, je n'ai pas pu le voir puisque je devais le voir le week-end dernier. Vous ne savez pas si vous allez pouvoir continuer. Cependant, nous avons souhaité vous écouter à propos de ce qui arrive beaucoup dans le monde artistique, culturel et particulièrement théâtral, chorégraphique et aussi musical. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce que ça donne artistiquement? Ça donne de la panique, de l'effroi, des choses promises et que vous ne pouvez pas tenir, des promesses non exaucées?
On travaille quand même. Alors oui, là aujourd'hui c'est suspendu, mais il faut savoir qu'un spectacle comme Record, c'est 1 an et demi de travail. Donc ce projet d'être ici à Chaillot, même si la pièce avait déjà joué au TCI dans le cadre de New Setting et on a déjà eu quelques dates en province, c'est quand même un écroulement, c'est un effondrement en fait. Notre but, c'est aussi d'être ensemble sur un plateau, d'être avec le public, et là ça s'écroule, mais on va rester positif.
Ça s'écroule collectivement ou ça s'écroule personnellement pour chacun de vous? Est-ce que vous pouvez parler de cette espèce de sensation de reconstruction, puis effondrement, puis reconstruction?
Oui, c'est effectivement là cette difficulté. J'ai l'impression qu'on vit au rythme des tests, c'est-à-dire que voilà, c'est très rationnel. Et alors on se lève le matin et on est dépendant de ces tests. Et puis d'un coup, il y a un espèce d'écroulement psychologique, mais aussi un écroulement physique, parce que toute la préparation du corps, tout l'investissement, tout voilà, un spectacle, on s'y prépare depuis le matin jusqu'au soir, on s'y prépare des mois avant. Donc en fait, le corps renonce aussi, une espèce de renoncement qui est assez violent, qui est aussi un peu dépressif. Même si on veut garder la tête haute, et je crois que le corps ressent, le corps est frappé presque par cette crise. En tout cas, moi, j'ai été frappée, et dans Records, d'ailleurs, j'en ai fait quelque chose puisque les danseuses frappent au mur. J'en avais fait quelque chose, donc c'est cet état assez indescriptible d'une catastrophe qui vous arrive physiquement.
Alors nous, en tant que spectatrices et spectateurs, on n'a pas forcément connaissance de la genèse d'un spectacle, de l'archéologie, de tout ce qui était en progrès depuis 1 an et demi. On vient voir un spectacle qui dure 1 heure et demie, et ça vous a demandé 1 an et demi. On sait que le corps a une mémoire, on sait que le corps, il a été travaillé. Quand on est chorégraphe, vous faites travailler les corps, et que le corps est en attente de délivrance de ce qu'il a appris. Alors qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps quand le spectacle ne peut pas avoir lieu? C'est un corps entravé, c'est un corps muet, c'est un corps douloureux?
Alors c'est un corps muet. Je trouve que l'expression elle est assez juste. Ben c'est un corps qui finalement a subi une grande frustration parce que il est préparé à ça, il est dédié à ça. Voilà. Alors après, je crois qu'il faut aussi arriver à dépasser ça. Il faut aussi se dire que bah, les choses vont quand même reprendre et il faut pas s'arrêter à forcément cette fragilité-là et cette douleur-là, mais peut-être qu'aussi il faut l'écouter. C'est-à-dire, il faut aussi s'écouter et se dire bon ben qu'est-ce qu'on peut faire avec finalement ce qui est en train de nous arriver. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut aussi s'ouvrir à partir de ça, quelque chose qui peut exister à partir de ça. Peut-être que c'est comme ça que les choses doivent être et que ça ira mieux plus tard aussi pour son propre corps. Moi, j'ai toujours peur que le corps ne reprenne pas, parce qu'un corps n'est pas à l'infini. C'est-à-dire, à la différence d'un livre dont on peut reparler dans un an, bah, le corps d'aujourd'hui, ce sera pas forcément le corps de demain ou dans un an. Donc, il y a toujours dans le spectacle vivant cette fragilité de l'instant qui est liée à l'instant. Si l'instant, ça ne se passe pas, est-ce que ça se passera plus tard? Et ça, personne ne peut y répondre.
Au début des représentations de Records, quand une de vos danseuses a eu des tests positifs, vous avez décidé de la remplacer, au pied levé, si j'ose dire. Mais là, il y en a trop. Vous ne pouvez pas être toutes les danseuses, les 6 danseuses sur le plateau de théâtre. Est-ce qu'une philosophie du corps va naître de la traversée de cette pandémie, selon vous?
Je crois que le corps va réagir. Alors c'est un peu tôt pour le dire, mais on le ressent déjà parce que notre rythme de vie a changé. On ne tourne plus à l'étranger. On a peur les uns des autres. Moi-même dans le studio, je sens que les danseuses là, le premier jour, on a quand même dansé 2 fois, mais je sens que dans les coulisses, on s'approche pas, on ne se touche pas. Donc il y a un champ qui s'est énormément réduit. Et c'est vrai que c'est quelque chose que notre danse, elle est collective. C'est-à-dire, en tout cas la mienne. Je sais pas celle des autres, mais ma danse, elle est collective. C'est l'histoire de groupe, c'est l'histoire de toucher, c'est l'histoire d'être ensemble, c'est l'histoire de se sentir presque, intuitivement, de se palper. Donc tout ça, c'est fini. Tout ça, on en a peur. Donc cette peur, elle est rentrée dans le travail. Et là, je l'ai sentie très concrètement depuis ces 2 jours. Elle a pénétré effectivement ce qu'on était, notre petite communauté de 6 danseuses, c'est pas beaucoup.
Voilà. Vous voulez dire que les gestes barrières se sont intégrés à l'intérieur du schéma corporel?
Oui, je pourrais le dire comme ça. Et d'ailleurs, je le vois quand j'enseigne, je le vois à quel point ça a impacté effectivement les rapports entre nous. Il y a une vraie réticence en tout cas. Maintenant, les gens, on se touche quasiment plus. Je ne sais pas ce qu'il en sortira de ça plus tard, mais il y a cette difficulté, cette peur à se toucher.
Donc, il y a la difficulté d'être son propre corps et de continuer à exprimer son rapport au monde, mais il y a aussi le problème qui va perdurer du rapport entre les corps.
Du rapport entre les corps, et puis, par exemple, dans cette pièce de Records, on parle beaucoup, donc il y a aussi la projection de la salive, c'est des choses assez simple, mais c'est vrai que on a vu qu'on s'était écarté les unes des autres parce que on a intériorisé en fait finalement sous ces gestes barrières. Alors je trouve ça terrible que la danse en subisse les conséquences, mais notre réaction à cette situation aujourd'hui, elle est là. J'espère qu'on pourra s'en libérer.
Je vous propose d'écouter la voix de Michel Foucault à propos de la fragilité de l'humain et du corps. Le corps a toujours envie de s'échapper, dit-il. Il imagine une autre perception de lui-même. C'est une archivina du 26 janvier 1963.
Vous voyez combien la position de notre corps sur la Terre est au fond fragile. Un peu trop d'ombre, et nous voilà dédoublés, soudain mis en face de nous-mêmes, comme M. Goliadkin. Et puis, un peu moins d'ombre, et nous voilà mangés par notre double, chassés de nous-mêmes. La mort a pris notre place. Comme si le corps, cette chose si indubitable pour nous, cette chose si résistante, souvent à ce que nous voulons, cette chose si entêtée, n'avait, en réalité, qu'une existence extraordinairement précaire, suspendue à sa propre ombre. Comme si ce corps unique, le nôtre, était bien difficile à maintenir dans son identité.
Nous n'avons qu'un corps et nous l'aurons toute la vie, mais comment penser cette unicité du corps et comment faire corps avec soi-même, Mathilde Monnier?
Moi, je crois que, je vois le corps avec beaucoup plus que qu'une unicité. Je vois beaucoup plus des représentations. Je crois qu'on passe son temps à alors changer de corps, oui, parce qu'on change de corps, nos cellules se régénèrent tous les jours, mais aussi on se voit différemment, on se représente différemment. Et moi, c'est ce que j'adore dans mon métier. C'est que je peux être dans telle pièce, avoir tel type de corps, avec telle représentation, avec tel type d'énergie, avec telle signification, telle projection, et dans une autre pièce, je suis quelqu'un d'autre, complètement quelqu'un d'autre. Et mon corps est autre. Parce que mes muscles sont autres, mon squelette est différent.
Votre squelette est différent.
Oui, mon squelette est différent. La façon dont je peux me tenir debout est différente. La façon dont je donne à voir une représentation de mon corps est différente. Si par exemple je passe de Gustavia, la pièce avec Maria Laribot, à Record, c'est tout à fait deux corps qui n'ont rien à voir. Et je pourrais presque même les décrire. Et donc, c'est aussi cette plongée.
Décrivez-les.
Non, mais par exemple, dans le corps de Gustavia, je suis beaucoup plus, c'est un corps ludique, c'est un corps qui est drôle, c'est un corps qui doit être grotesque. Donc j'ai un corps beaucoup plus sinueux où je travaille avec beaucoup de signes par exemple. C'est un corps où je signe presque comme on peut dire je signe comme pour les personnes qui muettes. Et alors que quand on recorde, c'est un corps qui est beaucoup plus attaqué. C'est un corps qui attaque, qui frappe.
Voilà. Dans tous ces corps, autant. Vous vous y reconnaissez ou vous vous y perdez?
Ah non, je...
Vous êtes maîtresse des différents corps que vous pouvez déployer et est-ce que c'est infini ce déploiement?
Alors, je sais pas si c'est totalement infini, mais ce que je sais, c'est que quand je sors d'une pièce, il me faut plusieurs mois pour m'arracher. C'est-à-dire, j'ai l'impression de... Alors, c'est un peu comme une image de BD, c'est comme s'il fallait qu'on me tire la peau et que je rentre dans une autre peau. Et j'ai vraiment, vraiment cette image... Et quelquefois, il me faut 3, 4, 6 mois pour sortir d'un corps. Par exemple, le corps de Please, Please, Please avec Larry Bott et Thiago Rodriguez. Quand je sors de cette pièce pour faire une autre pièce, j'ai l'impression qu'il faut que j'arrache mon corps, qu'il faut que je sorte. Je suis comme un transformiste qui doit vraiment se... Parce qu'autrement, je ne peux pas créer. Je suis encore dans le corps d'avant.
Et être dans le corps d'avant, ça veut dire penser comme avant.
C'est tout à fait ça, c'est penser comme avant, parce que bien sûr l'imaginaire va avec le corps. Il n'y a pas de corps sans imaginaire. En tout cas pour moi, il n'y a pas de danse sans imaginaire. Je danse avec ma tête. Je dois avoir des imaginaires, je dois avoir des images qui me nourrissent, j'ai des mots qui me nourrissent, j'ai un univers qui me nourrit. Et donc il faut vraiment s'extirper de ce monde-là pour passer dans un autre monde.
Vous avez dit tout à l'heure, Mathilde Monnier, que vous aviez besoin d'idées pour travailler. Et dans les idées qui vous nourrissent depuis extrêmement longtemps, il y a la philosophie. Parmi les philosophes, il y a un philosophe qui, hélas, s'est éteint il y a maintenant 6 mois, qui a été une source de connaissances et d'expériences et de peut-être de traverser des apparences pour vous. Il s'appelait Jean-Luc Nancy. Je vous propose d'écouter sa voix. Il va parler de la question de l'être. C'était le 30 janvier 2012.
Qu'est-ce que ça veut dire, ce transport, comme ça, que Heidegger, en même temps, a appelé la destruction, qui ne veut pas dire du tout destruction, qui veut dire déstructuration, et qu'ensuite, les Français... on traduit par déconstruction, donc qui aujourd'hui est devenu un mot qui se promène partout avec un sens très éloigné de ce que les philosophes voulaient lui faire dire. La déstructuration de quoi ? Du fait que depuis des siècles, nous pensons toujours plus ou moins sur le fond de l'idée qu'il y a l'être. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une assise solide, présente, reposant sur elle-même, et en quelque sorte que sur elle-même, à quoi tout peut se rapporter. Bon, que ça, c'était une sorte de fermeture qui s'est produite dans l'histoire de la pensée, dans notre mode de pensée, et qu'il faut essayer de penser l'être comme verbe, c'est-à-dire aucune substance, si vous voulez, aucun sujet derrière tout ce qui existe, mais l'exister comme un premier renvoi, le surgissement, que ça surgit de rien, si vous voulez. Ce qui, curieusement, rencontre le motif de la création ex nihilo qui a été développée dans le judéo-christianisme. Et bon, voilà, je pourrais presque dire que l'apport de Heidegger, pour moi, c'est vraiment essentiellement ça.
Nous venons d'entendre la voix de Jean-Luc Nancy qui parlait de l'influence sur sa propre philosophie de Martin Heidegger. Mais c'est aussi un philosophe qui a beaucoup travaillé sur l'existence. Il a d'ailleurs, dans ses deux dernières publications avant sa disparition, parlé beaucoup de la manière dont cette pandémie travaillait nos propres cœurs et nos propres corps. Là, il vient de s'exprimer sur l'être, ce noyau dur de l'être. Est-ce qu'il est inextricablement lié entre le corporel et l'intellectuel, ou entre le corporel et le psychique, pour vous qui êtes chorégraphe et aussi danseuse, Mathilde Monnier, cet être-là?
Alors, cet être-là, oui, le psychisme sûrement, parce que j'écoutais là ce que dit Jean-Luc et Nancy, et je, ça, voilà, sur cette histoire de, est-ce que ça surgit de rien? D'où ça surgit? Est-ce que ça, les choses surgissent comme ça? Non. En tout cas, il y a toujours une quantité de niveau, de métabolisme, de choses qui se métabolisent dans le corps, dans la pensée, dans la tête, pour qu'à un moment ça surgisse. Et donc c'est assez complexe, mais moi je ressens justement que c'est, les choses viennent à partir du moment où elles ont été longtemps là, où elles ont été longtemps présentes, où elles sont, à un moment donné, elles se sont enrichies. À un moment donné, il y a une vraie nécessité de faire apparaître, une idée, un mouvement. On passe d'un mouvement à l'autre. Moi, je vois que je ne danse pas comme je dansais avant. Quand j'ai commencé à danser, j'ai l'impression que je dansais parce que j'avais intégré un certain nombre de techniques, donc j'étais complètement influencée par ces techniques-là. Et je me rends compte.
Vous étiez une élève et maintenant vous êtes passée à l'artiste avec un grand A.
Oui, je pourrais le voir comme ça. Et finalement, on est élève beaucoup plus longtemps qu'on croit. C'est-à-dire, en fait, on se rend pas forcément tout le temps compte de toutes les influences qui sont, parce qu'elles sont tellement physiques, on les perçoit pas toujours. Donc, notre corps est encore empreint de tout ce qu'on a appris. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, depuis un moment quand même, voilà, je suis beaucoup plus dans quelque chose qui m'est propre que, je dirais, quand j'avais 24, 30 ans.
Alors, au milieu de votre vie, il y a eu comme source aussi d'expérimentation et de nourriture intellectuelle et chorégraphique, Mathilde Monnier, des gens comme Philippe Catherine, avec cette chanson Louxor, qui exprimait avec votre troupe la jubilation des corps. Il y a eu des spectacles plus graves où vous avez engagé votre propre mémoire corporelle, mais aussi psychique, avec Christine Angot. Et donc, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus votre propre philosophie ou la philosophie qui devient un matériau essentiel pour votre création chorégraphique.
Alors oui, peut-être, mais je la relie moins directement à mon travail. Je crois que justement, je me suis un peu aussi éloignée de quelque chose qui serait trop directement lié à quelque chose d'intellectuel ou de spirituel. Je suis beaucoup plus dans le concret, dans le présent, peut-être d'une manière beaucoup plus simple aussi. Ce que je dis souvent, c'est que dans Records, finalement, j'ai fait avec ce que j'avais, c'est-à-dire très peu. Il y avait un studio avec un mur, avec j'étais seule avec un plancher, avec ma voix, avec mon corps, et j'ai fait avec aucun texte, presque rien. Il y a de la musique quand même, il y avait de la musique. Et donc je de plus en plus je reviens avec quelque chose d'assez à des pièces, à des mouvements, à des formes beaucoup plus simples, et j'ai envie de cette simplicité. Je crois qu'elle me correspond beaucoup plus aujourd'hui, et c'est beaucoup plus là-dedans, dans cette sensibilité, cette simplicité, que j'ai besoin d'aller.
Est-ce que c'est un effet indirect de la pandémie, cette espèce d'épure, de désir de simplicité, ou est-ce que c'est le fruit d'une expérience vécue? Et j'élargis ma question à tout le champ culturel. Est-ce qu'il va y avoir, à votre avis, en ce qui vous concerne personnellement, une transformation des sources de créativité? Est-ce que la création va être peut-être positivement transformatrice de production culturelle?
Je crois que, en tout cas, moi, j'en avais besoin de cette simplicité, parce que aussi, je crois qu'aussi il y a une espèce de discours ambiant permanent qui est assez vide, parce que finalement personne ne pouvait prévoir, personne, alors peut-être certains philosophes analysent ça beaucoup mieux que moi, Jean-Luc Nancy l'a fait, c'est-à-dire à capter le temps, qu'est-ce qui est en train de se passer exactement. Et mais j'avais là aussi l'impression d'être complètement entourée, de, justement pour remplir ce vide, mais pour remplir aussi cet inconnu, c'est-à-dire le fait qu'on sache pas du tout ce qui va se passer. J'avais l'impression d'être complètement polluée par des paroles. Donc j'avais besoin, ou par des discours, ou par des projections sur l'avenir. Moi, j'avais vraiment besoin de n'entendre que moi, c'est-à-dire de me mettre dans un espace fermé et de me dire bah. Extrayons-nous un moment de ce discours ambiant, soyons seuls avec soi-même. Et alors, c'était une manière très personnelle de répondre, mais vivons l'isolement tel qu'il nous est donné, puisque finalement c'est ça l'expérience du Covid, c'est cette expérience-là. Donc acceptons-la et vivons-la.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Mathilde Monnier, Étienne Dao, Les Flocons de l'été.
Tout est blanc, tout givré, innocent. C'est l'hiver en été. Tout est blanc, défoncé, aveuglant, déchiré. C'est l'hiver en été.
La marche est effectivement, avec la verticalité du dos, la verticalité de la colonne vertébrale, le mouvement le plus simple, de la human, proper to human posture de l'être humain. La marche est la façon la plus simple d'organiser non seulement mon espace mais aussi mon temps. les paramètres de temps pour le dire, comme en musique orientale, on peut marcher très lentement, très vite ou bien au milieu. Marcher très lentement est une chose qu'on fait de moins en moins. Il paraît que à la campagne, dans une forêt, on marche beaucoup plus lentement qu'en ville. Le rythme d'une marche paraît différent qu'il y a 100 ans dans les villes. C'est notre rapport. C'est propre à la danse, puisqu'il, dans toutes les définitions possibles de ce que c'est la danse, comme embodied abstraction, l'abstraction, c'est aussi defying gravity, c'est les lois de la gravité. Marcher, c'est un changement de poids. To walk very slowly, de marcher très très lentement, je vous propose de faire l'expérience, de faire les 4 mètres et de prendre, qui vous amène jusqu'à la porte. Si vous prenez un quart d'heure pour faire ça, ça va non seulement changer votre perception de cet espace, mais aussi la perception du temps et la perception de votre propre corps. Je sais qu'on l'a annoncé comme si c'était une chose qui était inspirée par des pratiques bouddhistes. Moi, j'ai pas pensé à ça. C'était en fait un point de départ d'un spectacle que j'ai fait sur la musique de Brian Eno, dont le début était une marche très très lente.
Nous venons d'entendre donc Étienne Daho et puis ensuite la voix d'Anna Teresa Dekersmaeker, qui est comme vous, Mathilde Monnier, à la fois chorégraphe et danseuse, qui continue d'ailleurs à danser et qui effectivement, en octobre 2018, dans l'heure bleue, avait tenté l'expérience, après la fin de l'émission, de marcher très lentement. C'est vrai que c'est très difficile de marcher très lentement et de mettre un quart d'heure pour franchir 4 pas. Avez-vous, vous, les pieds sur terre ?
Moi, je marche aussi beaucoup. Je marche dans mon studio, ce qui est très différent que de marcher dehors, puisque quand on marche dans une ville, ben finalement, on est beaucoup plus attentif à l'extérieur, ou à la campagne, au paysage. Voilà, on est en extériorité. Et quand on marche dans son studio, et ben on est beaucoup plus à l'écoute de son propre corps. Puisqu'on est, voilà, on n'est pas troublé par l'extérieur. Et moi, je vois beaucoup la marche comme une sorte de rumination de l'artiste. C'est-à-dire que ça procède un peu de la page blanche. C'est-à-dire, en marchant, j'active finalement des processus créatifs, j'active une pensée. Donc, je suis vraiment à l'écoute de cette marche dans le studio. Parce qu'autour de moi, l'espace est assez neutre. Dans un studio, l'espace est neutre. Et on n'est pas perturbé par... voilà, des éléments qui viennent rompre cette marche. Donc, marcher est très lié au processus créatif. C'est vraiment... alors, je ne sais pas, l'écrivain, il va peut-être écrire beaucoup de choses. Je ne sais pas comment font les autres. Mais pour moi, marcher, c'est commencer à travailler, commencer à créer.
Marcher, c'est penser.
Marcher, c'est penser. Mais c'est aussi être en relation avec son corps. C'est-à-dire, c'est toujours cette double chose qui me fascine totalement. C'est que finalement un corps, c'est toujours cet aller-retour entre un psychisme et puis une sensation physique très claire, très consciente, et d'être lumineux à travers ces deux présences. C'est comment ces deux présences sont là, elles sont conscientisées, et comment on les amène progressivement à voilà inventer des gestes, mais l'un ne va pas sans l'autre.
Marcher, c'est danser. Bon nombre de chorégraphes nous avaient proposé il y a à peu près une vingtaine d'années beaucoup de spectacles où il y avait des moments de marche qui étaient purement de la danse. Et d'ailleurs, vous parliez de Merce Cunningham qui était votre premier maître à New York. C'est beaucoup le pas qui a compté et le règlement des pas.
Oui, alors, my dancing is my walking. C'est effectivement, quand on voit quelqu'un marcher, ben on le voit déjà danser. En tout cas, moi, dans mon regard, il danse déjà. J'adore, par exemple, une des choses qui me trouble le plus, c'est, ou à des auditions, ou quand je connais pas les danseurs, c'est comment est-ce qu'ils vont rentrer dans le plateau, dans le studio. Et là, j'ai tout de suite déjà une espèce de photographie de ce qu'ils sont.
Mais évidemment, ils le savent pas.
Ils le savent pas, heureusement pour eux, parce que ça modifie déjà beaucoup leur marche. Et je sais que, enfin, ce qui était complètement fou avec Merce Cunningham, c'est que finalement, il a inventé cette manière de rentrer sur un plateau en marchant. Avant lui, on n'osait pas marcher sur un plateau. Et ça a été une des choses fondamentales qui a changé aussi la danse contemporaine. On s'est dit, ah, enfin, on n'est pas obligé de faire des pas pour rentrer, on peut marcher, tout simplement, parce que marcher est déjà danser.
Un spectacle de danse s'accompagne souvent de musique. C'est le cas pour ce Records. Il y a la musique de Luigi Nono, mais il y a aussi du jazz, il y a aussi de la pop. La musique a toujours été très importante à l'intérieur de vos spectacles. Est-ce pour vous une manière d'apprivoiser le temps et de quantifier le temps pour qu'il soit bien cadré?
Oui, en même temps, ça le dilate. Je crois que la musique, elle a aussi cette possibilité, cet émerveillement de nous emmener ailleurs. Moi, j'adore découvrir des choses nouvelles. J'ai passé mon été avec Barbara Hannigan parce que j'ai écouté pratiquement tout ce qu'elle a chanté et dirigé, puisqu'elle est aussi chef d'orchestre. Et ça m'apporte énormément de joie, énormément peut-être aussi d'idées, mais en fait ça me transporte ailleurs surtout, c'est-à-dire ça me sort aussi de moi.
Et mais la musique chez vous n'est jamais le matériau pour qu'on danse en rythme de la musique.
Alors faut que vous voyez Records.
J'espère que la Covid épargnera vos danseuses.
Moi aussi je l'espère, j'espère beaucoup.
Parce que vous avez trouvé un accord entre la temporalité de la musique et l'expression corporelle.
Oui, tout à fait, notamment sur le morceau de Luigi Nono que chante Barbara Hannigan, il y a vraiment une construction complètement écrite musicalement. Et en fait, ce n'est qu'une voix, ce morceau. C'est ça qui est assez fou, ce n'est que la voix, il n'y a pas d'orchestration, il n'y a pas d'instrumentation. Et donc, c'est presque un souffle. On l'entend d'ailleurs souffler, on entend son inspiration, son expiration, et la danse est écrite à partir de ce souffle-là.
Il y a beaucoup de bruit dans le spectacle.
Il y a beaucoup de bruit. Après, il y a beaucoup de bruit, oui. C'est un spectacle qui devient bruyant. Parce que, voilà, c'est ce qu'il faut occuper l'espace, il faut être vivant, il faut redécouvrir ce qu'on est, redonner vie, en fait, à ce qui est autour de nous.
Virginia Woolf avait parlé d'une chambre à soi. Qu'est-ce que veut dire avoir son espace à soi, Mathilde Monnier?
Qu'est-ce qu'un intérieur? Qu'est-ce que c'est que d'avoir, de recomprendre ce que c'est notre intérieur? Est-ce que c'est regarder dehors et puis de voir que le ciel est toujours là? Est-ce que c'est regarder à travers une fenêtre?
Ah ben le ciel, parlons-en. J'ai pas, hélas, encore vu votre spectacle, mais j'étais sur YouTube comme tout le monde et j'ai vu des photos de votre spectacle et j'ai vu que derrière les 6 danseuses, il y avait des vidéos et des vidéos de ciel.
Oui, parce que le ciel est au-dessus, donc c'est des vidéos d'un artiste qui s'appelle Jocelyn Cotensin. C'est effectivement des images qui représentent aussi le temps. Finalement, le ciel devient le temps, mais le temps qu'on regarde quand on est à l'intérieur. Donc il y a quelque chose qui se déroule au-dessus de nous, mais qui est dehors. En fait, pour moi, ce ciel, il est encore dehors dans la pièce, et nous sommes à l'intérieur. Mais voilà, il nous donne
à l'intérieur de quoi ?
À l'intérieur de l'intérieur.
C'est
à l'intérieur.
Quoi ?
Eh ben, on est dans un espace fermé je sais pas, je pourrais pas le qualifier. Ce serait peut-être effectivement la chambre à soi, mais c'est peut-être juste 4 murs. En fait, c'est cette idée d'être à l'intérieur dans un espace qu'il faut complètement requalifier. C'est aussi cette idée que on a voyagé, on s'est baladé, et là d'un coup l'espace a changé. Alors c'est quoi l'espace? Quel est l'espace qu'on a aujourd'hui? C'est comment est-ce qu'on se représente de nouveau l'espace quand on est dans des espaces limités? Comment on réinvente une nouvelle manière de se représenter l'espace?
Vous êtes une chorégraphe et une danseuse assez collectiviste, je veux dire, c'est-à-dire que vous travaillez avec vos camarades. On a parlé de plusieurs noms tout à l'heure, on a parlé de Anna de Kersmacher, on va parler de Larry Bott, que vous avez évoqué aussi il y a peu de temps, Larry Bott avec qui vous aviez fait un avant-dernier spectacle avec beaucoup, beaucoup de succès, c'était au Centre Pompidou. Larry Bott qui est une maîtresse chorégraphique de l'immédiateté, de la sensualité, quelquefois même de la brutalité du rapport à l'espace. Je vous propose de l'écouter à propos de l'espace dans la danse. C'était il y a 2 ans.
presque tous les travaux que je commence, je dois me les imaginer dans un espace. Même si on est sur scène, l'autre jour, par exemple, avec Mathilde Monnier, on vient de faire une pièce ensemble avec Théa Rodriguez, et une des grandes discussions, c'était dans quel espace on est, parce que l'espace est où on incarne ou on va incarner quelque chose. Pas seulement physiquement, sinon intellectuellement aussi, de quoi on va écrire, où on va se poser. C'est hyper important, l'espace. Donc, l'espace, il va avec les idées. Chez moi, c'est pas que j'essaye, est-ce que je fais les costumes, je fais l'espace.
Tout, vous faites tout.
Mais c'est pas parce que je ne veux pas collaborer, c'est parce que c'est complètement lié un truc à l'autre, je ne peux pas les séparer. Et quand je me suis rendu compte, je suis en train déjà de dessiner un espace possible avec un couleur qui peut-être c'est les bas ou la chaussure qui va avec. Et tout va ensemble. C'est pour ça que l'espace, il forme, il est intrinsèque à la pièce, à les choses.
Alors, on se souviendra longtemps de votre spectacle où toutes les deux, telles deux gamines, vous réinventiez la danse devant les yeux émerveillés de vos spectatrices et de vos spectateurs, alors que vous n'avez plus 20 ans, mais on avait l'impression que vous en aviez 12 et demi. Il y a une sorte de jubilation à danser avec la ribote, à partager. Est-ce que ça se partage, la création chorégraphique, Mathilde Monnier?
Alors là, ça se partage totalement avec Maria, c'est-à-dire c'est très mystérieux, mais oui, c'est un jumelage, une sororité, j'ai pas trop d'ailleurs envie de mettre de nom, mais c'est quand même une des rares artistes avec qui je peux être sur un plateau et en toute confiance, et je crois qu'on a une espèce de logique de comprendre le plateau de la même manière. C'est-à-dire on parle pas énormément de nos visions, mais à un moment où on est dans un espace, on a cette sensation, j'arrive pas vraiment à le décrire d'ailleurs, je suis en train d'essayer de le décrire, mais je peux pas décrire ce qui nous lie.
C'est la joie.
C'est aussi, il y a très peu d'artistes qui sont capables de se mettre dans des positions aussi grotesques que les Maria, et ça me réjouit profondément, parce que j'ai ça aussi en moi, et je crois qu'elle me permet en fait elle me permet des choses que je me serais jamais permis toute seule. Et donc c'est une sorte de révélateur, peut-être l'une de l'autre. On se révèle chacune l'une à l'autre à chaque fois, dans une grande confiance en tout cas.
Toutes les deux, vous êtes des artistes, chorégraphes. Toutes les deux, vous avez été assez rares en tant que femmes dans la pratique de la chorégraphie. Et toutes les deux, vous continuez, malgré l'âge qui vient, à danser et à inventer. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années où il n'y avait pratiquement pas de femmes, à part Pina Bausch, qui était reconnue internationalement?
En tout cas, pour moi, c'est plus facile. J'ai plus de facilité à aller sur un plateau qu'avant, d'accepter mon âge. Il se trouve que dans Record, les six filles, on est seins nus. Donc,
avec des pantalons et des baskets, je crois.
Oui, mais quand même, d'accepter, moi j'ai 62 ans, d'accepter aussi de d'ailleurs, c'est une des danseuses qui m'a dit ça, mais si tu es vraiment féministe, il faut que tu le fasses. Et j'ai trouvé que c'était très juste, ça a été le déclic, j'ai dit bon d'accord, je vais remplacer une danseuse qui a 20 ans de moins que moi, et donc d'assumer, et finalement les choses se sont bien passées. Et
pourquoi cette semi-nudité?
Alors le torse de la femme dans la danse, mais aussi dans l'histoire de l'art, pour moi c'est une vraie grande très belle question. Il se trouve que dans la danse, le torse est souvent vu comme masculin, c'est-à-dire il est très montré, il a énormément montré du côté masculin, mais la question du torse féminin est très peu montrée, il y a toujours un soutien-gorge et pour moi le torse il est un paysage, il est surtout un paysage chorégraphique quand on n'a plus la limite avec les bras, la limite avec le cou, que vraiment le corps le torse existe dans sa globalité. Et d'assumer cette posture, de voir des seins qui dansent, de voir un corps complètement assumé de femme, pour moi, était très important.
Vous êtes bien dans votre corps, Mathilde Monnier, aujourd'hui?
Mieux qu'avant. Je suis beaucoup mieux qu'avant. Beaucoup mieux qu'à 30 ans. Et c'est ça aussi qui me permet de continuer à danser.
Ben merci infiniment. On a hâte et on touche du bois pour qu'aucune de vos danseuses ne soit testée positive et pour que ce spectacle puisse continuer au Théâtre National de Chaillot. Et bravo pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites. Ça s'intitule Records, le nouveau. Et ben, on attendra jusqu'au moment où il aura lieu. En tout cas, merci infiniment Mathilde Monnier.
Funny girl, you look so unassuming right up until the room you're captivating starts to fill with gut-busting laughter. You're transformed into a five-foot Cleopatra. Funny girl, your schedule's pretty crazy, doing interviews for the new live action Kathy. Could you pencil in an industry outside? Getting younger, funny
C'est avec Funny Girl de Father John Misty que nous allons nous quitter ce soir. D'ailleurs, Mathilde Monnier, je trouve que vous êtes une funny girl. Et j'espère que votre spectacle Records va reprendre au Théâtre National de Chaillot, puis ensuite y partira en tournée. Merci à Benjamin Troncin qui est à la régie technique ce soir. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Marie Mougin, Marie Clément. Et merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci enfin à Lydia Alôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Et après le prochain journal d'information, vous avez bien sûr rendez-vous avec l'ami Mishka pour la suite de son Very Good Trip.